Vous écoutez, on lit pour vous.
Une différence cérébrale entre les deux sexes. Un texte de Science et Avenir, paru le 21 mars 2024, dans Science et Avenir. Les cerveaux féminins et masculins ne fonctionnent pas de la même manière. C'est ce que sont parvenus à démontrer, pour la première fois, des travaux menés à l'Université Stanford, États-Unis. Notre étude fournit des preuves irréfutables de l'existence de différences sexuelles dans l'organisation fonctionnelle du cerveau humain, affirme le professeur en psychiatrie et sciences du comportement Vinod Menon, qui a dirigé l'étude publiée dans la revue PNAS. Des résultats qu'il qualifie de « très surprenants » tant les études menées jusqu'à présent avaient échoué à trouver des différences cérébrales sexuées fiables. Les chercheurs se sont adjoints un assistant efficace, une intelligence artificielle entraînée sur des centaines d'enregistrements cérébraux d'IRM fonctionnels, IRMF, une méthode d'imagerie permettant de suivre en direct les schémas d'activation neuronale. L'algorithme a ainsi appris à distinguer avec une fiabilité de 90% si des IRMF provenaient d'une femme ou d'un homme. Aucune conclusion à en tirer sur le comportement. Trois zones et réseaux cérébraux distinguant les cerveaux féminins et masculins ont pu être identifiés. Le striatum, le cortex orbitofrontal, tous deux impliqués dans des mécanismes d'apprentissage, et le réseau du mode par défaut, qui s'active lorsque l'esprit vagabonde, impliqué dans l'introspection. Nos résultats suggèrent que les femmes et les hommes diffèrent dans la manière dont ils engagent des circuits fonctionnels dynamiques impliqués dans les processus mentaux autoréférentiels, la sensibilité à la récompense, l'apprentissage par renforcement et les expériences subjectives de plaisir, détaillent les chercheurs, tout en précisant qu'aucune conclusion sur la signification comportementale de ce dimorphisme ne peut être tirée en l'état. L'identification de ces différences pourrait mener à une meilleure prise en charge des troubles psychiatriques et psychologiques qui varie selon le sexe des patients. C'était « Une différence cérébrale entre les deux sexes », un texte de Science et Avenir, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir.
Des capteurs pour prévenir les commotions cérébrales. Un dossier de Catherine Harvey-Pinard, paru le 26 décembre 2024 dans la presse. Je ne comprends pas qu'on ne fasse rien. L'un des deux cofondateurs de BearMind, Mathieu Falbriard, était de passage au Québec au début du mois de décembre 2024. Accompagné de ses deux employés responsables des opérations nord-américaines, Patrick Boivin et Michel Benoît, il a rencontré la presse. Monsieur Falbriard a pratiqué le hockey de 4 à 20 ans avant de passer au rugby, auquel il a joué pendant les 12 années suivantes. Des impacts à la tête et des commotions cérébrales, il en a eu et en a vu. J'ai moi-même des amis qui ont maintenant des problèmes à la suite des impacts répétés, dit-il. Je ne comprends pas qu'on ne fasse rien alors qu'il y a une technologie qui permet d'aider. C'est comme continuer à rouler en voiture sans mettre la ceinture. Pendant son doctorat en analyse du mouvement à l'École polytechnique de Lausanne, M. Falbriard s'est penché sur les capteurs de mouvement. Sa thèse visait à corriger les erreurs de ces capteurs, qui sont précis, mais ont certaines limitations. J'avais plein d'idées de comment on pourrait faire mieux. Pendant la pandémie de COVID-19, le cofondateur, Tom Bertrand, et lui ont contacté des entrepreneurs qui avaient déjà tenté de créer un dispositif comme celui qu'ils souhaitaient développer. les gens qui avaient fait des systèmes par le passé, il n'y a pas eu beaucoup de recherches cliniques, de validation médicale. Les deux hommes ont donc pris le temps de trouver les bons chercheurs et de mettre sur pied des projets de recherche. À l'été 2021, ils ont obtenu un fonds de recherche de près de 1 million de francs suisses, environ 1,6 million de dollars canadiens. Toutes ces évidences médicales dont on avait besoin pour élever le système, on les avait maintenant grâce à ce projet-là, explique M. Falbriard. De tout ce travail de longue haleine est ultimement né le capteur que l'on découvre aujourd'hui, utilisé cette saison par 7 équipes professionnelles européennes, 2 équipes québécoises de niveau junior-majeur, le Phoenix de Sherbrooke et l'Armada de Blainville-Boisbriand, ainsi qu'une équipe féminine de la NCAA. Le capteur. Le capteur de BearMind est inséré dans une espèce de petit étui de caoutchouc fixé à l'arrière du casque de hockey. Le système comprend en réalité 2 types de capteurs. Le premier permet d'enregistrer le mouvement de la tête du joueur lors d'un choc et le deuxième mesure les rotations de la tête. On sait aujourd'hui, grâce à la recherche, que les rotations de la tête sont un assez bon prédicteur des risques de traumatisme, note M. Falbriard. Grâce à ces capteurs-là, on a vraiment une vue en 3 dimensions de comment la tête bouge à chaque impact. À travers le projet de recherche, il y a évidemment eu des commotions. Précise Patrick Poitvin, responsable des opérations nord-américaines de BearMind. Les chercheurs sont capables de faire le lien entre le type de mouvement qu'a eu la tête et là où il y a eu des incidents de commotion. L'association entre les deux permet de mettre un facteur de risque à un certain type de mouvement. Notre système, c'est une gradation très simple, continue M. Boivin. C'est vert, jaune ou rouge. Mais on n'est pas en train de te dire que rouge, c'est un impact de telle force. Ça veut dire que c'est un impact assez sévère qui indique qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait eu une commotion. Voir ce que tu ne vois pas. Les 3 hommes insistent. Le capteur ne se substitue pas au médecin et ne fait pas de diagnostic médical. Il amène plutôt une information supplémentaire au médecin ou au thérapeute sportif qui peut être ainsi être proactif plutôt que réactif. Ça te permet de voir ce que tu ne vois pas ou, à la limite, de savoir ce que tu ne sais pas, précise M. Boivin. Allons-y avec un exemple concret. Un défenseur reçoit un petit coup d'épaule au menton. Sa tête fait une rotation, mais le jeu se poursuit. Le défenseur sort la rondelle de sa zone, rentre au banc, ne se sent pas très bien, mais ne dit rien par peur d'être retiré du match. Après la rencontre, lorsque le capteur du joueur sera placé dans son socle de recharge, le thérapeute pourra être informé non seulement du coup en question, mais aussi de sa gravité. Il pourra ensuite réagir en conséquence et aller voir le joueur afin de poser les questions appropriées pour connaître ses symptômes, si symptômes il y a. Mentionnons d'ailleurs que, dès la fin de janvier 2025, ce thérapeute pourra recevoir des alertes en temps réel au sujet des coups reçus, ce qui lui permettra d'aller voir le joueur concerné immédiatement à son arrivée au banc. Vous écoutez « Des capteurs pour prévenir les commotions cérébrales », un dossier de Catherine Harvey-Pinard, paru le 26 décembre 2024 dans la presse. Mathieu Falbriard rappelle que, lorsque le cerveau est blessé, si on reprend un coup derrière la tête, les conséquences peuvent être vraiment graves. C'est ce qu'on appelle le syndrome du second impact. Le but n'est pas d'empêcher les joueurs de jouer. Au contraire, on veut que vous jouiez le plus longtemps possible, mais quand vous jouez, on veut que vous ne soyez pas à risque, que vous soyez dans le meilleur état possible. Le vrai problème, ce sont tous ces impacts à répétition, ajoute-t-il. Même les petits et les moyens impacts qui ne donnent pas forcément de symptômes. Tout ça, ce sont des micro-traumatismes qui s'accumulent avec le temps et qui font qu'un joueur est soit plus à risque de blessure, soit moins performant. M. Falbriard cite d'ailleurs une étude de l'Université de Boston, publiée tout récemment dans la revue médicale JAMA Network Open, qui montre que les joueurs de hockey sont plus à risque de souffrir de démence en raison des chocs répétés à la tête. Nous, ce qu'on dit, c'est, sans un capteur, tous ces petits impacts et ces moyens impacts sont impossibles à voir, à quantifier. Le Québec comme tremplin nord-américain. BearMind en est actuellement à l'étape de la commercialisation et souhaite distribuer son produit à travers l'écosystème de hockey québécois qu'il entend utiliser ensuite comme tremplin d'intégration pour le reste de l'Amérique du Nord. Pour ce faire, il a rencontré différentes ligues, dont la LHJMQ, de laquelle il a rapidement eu une oreille assez attentive, raconte-t-il. Le cofondateur et ses collègues ont également rencontré Hockey Québec et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, où certains ont vu un risque pour les contrats. Il y a une question de perception de responsabilité légale, dans la mesure où c'est de l'information qui est pseudo-médicale, mais en même temps, c'est de l'information sur ce qui se passe avec ton corps, explique Patrick Boivin, responsable des opérations nord-américaines de BearMind. C'est de l'information de plus, dit Patrick Boivin. Je pense qu'à n'importe quel moment, dans de l'évolution technologique où tu as cette espèce de changement-là, où tu as un peu plus d'informations, ça va prendre un certain temps pour que les gens se familiarisent avec les façons de l'utiliser positivement. La plus grosse barrière en est donc une d'éducation et de compréhension, selon les trois hommes, qui précisent d'ailleurs que le système a été construit de façon à donner aux joueurs le contrôle total de ces données. C'est le joueur lui-même qui, lorsqu'il crée son profil sur l'application, donne l'autorisation aux membres du personnel de consulter ces données. Tant que le joueur n'a pas dit « Je suis d'accord pour que telle personne voie mes données », le personnel ne voit rien. Et à n'importe quel moment, le joueur peut dire « Je ne veux plus partager ces données-là ». Prochaines étapes. BearMind travaille déjà à ajouter différentes fonctionnalités. Il s'affaire notamment à intégrer le capteur à l'intérieur du casque afin qu'il soit le moins apparent possible. Il se penche également sur la construction de modèles plus intelligents grâce à l'intelligence artificielle. Si le capteur actuel est conçu pour les casques de hockey, l'entreprise souhaite aussi s'implanter dans d'autres sports comme le ski, le football américain et le sport automobile. D'ici 2 ans, BearMind aimerait rendre le produit disponible pour tous ceux qui souhaitent avoir un casque de hockey avec un capteur intégré. Comme n'importe quelle nouveauté, ça prend du temps et des gens qui y croient, dit Patrick Boivin. C'est une évolution. Il n'y a personne qui portait de casque de ski il y a 20 ans non plus. Là, les gens portent des casques de ski. Le casque est fait pour protéger ton crâne. Nous, on est là pour t'aider à prévenir et protéger ton cerveau. Souvent, je repense au premier gardien qui a voulu mettre un casque et à qui on a refusé parce qu'on avait peur qu'il soit moins attentif, renchérit Mathieu Falbriard, cofondateur de BearMind. Parfois, dans certains commentaires qu'on a, on retrouve un peu cette logique-là de dire « c'est surprotégé ». Je pense que ce sont des mentalités qui doivent changer et que ça va grossir grâce aux bonnes personnes dans les institutions. Les autres suivront. Vous écoutez « Des capteurs pour prévenir les commotions cérébrales », un dossier de Catherine Harvey-Pinard paru le 26 décembre 2024 dans la presse. L'expérience de l'Armada. L'Armada, comme le Phénix de Sherbrooke, fait un peu office de socle au Québec pour l'expansion de Bear Mind. Elle utilisera ses capteurs sur les casques de ses joueurs pour l'entièreté des deux prochaines saisons. Le thérapeute Francis Denis, qui travaille pour la LHJMQ depuis 17 ans, est catégorique. Il n'y a pas un thérapeute qui va dire non à l'utilisation des capteurs. Même s'il n'utilise pas l'outil chaque jour, celui-ci lui offre de l'information objective de plus qu'il n'a pas normalement et qui lui permet de mieux faire son travail. Le thérapeute Francis Denis pose la question « Est-ce que c'est une chose dont j'ai absolument besoin pour travailler ?» Non, parce que l'évaluation clinique va toujours primer, mais tu ne peux pas dire non à avoir de l'information objective de plus sur la force de l'impact. Chaque match, Francis Denis est installé derrière le banc de l'Armada et surveille ce qui se passe sur la patinoire. Si un joueur est impliqué dans une collision ou qu'il reçoit un gros coup à la tête, le thérapeute procède à une évaluation clinique. C'est très subjectif, une évaluation de commotion, parce qu'on se fie beaucoup à ce que l'athlète nous dit. C'est arrivé parfois que des gars ont caché des symptômes. Si certaines commotions sont évidentes, il donne l'exemple de la fois où un joueur se croyait à Cancun, la plupart des coups se classent dans la zone grise. Le thérapeute Francis Denis continue. S'il n'y a rien qui ressort de notre évaluation objective et qu'il ne déclare aucun symptôme, on le retourne au jeu. Dans un cas comme ça, si on fait notre évaluation, que le joueur ne déclare rien, mais que je prends le capteur et que ça me dit qu'il y a eu un impact sévère, ça se peut que je dise « Tu ne retourneras pas au jeu maintenant, on va réévaluer demain. » D'ici quelques semaines, Bear Mind ajoutera la fonction d'alerte en direct. Francis Denis recevra donc une notification sur son cellulaire chaque fois qu'un joueur subira un coup qui mérite de recevoir de l'attention. C'est en grande partie cette fonction qui a convaincu Pierre Leduc, président de l'Armada, de la pertinence de l'outil. Un joueur a peut-être eu un coup et Francis part l'évaluer. Il n'évalue pas le joueur sur le banc, il a l'ordre de faire ça à part. Pendant ce temps-là, le jeu continue. C'est là que l'alerte sur son téléphone devient importante. Là, il peut y avoir un impact majeur. Ça va être enregistré. Lui ne l'aura pas vu. C'est sécurisant. L'application de Bear Mind permet aux joueurs de remplir des questionnaires au sujet de leurs symptômes. Selon Denis et Leduc, la fonction en question n'est pas vraiment utilisée par leurs joueurs. Néanmoins, croit Denis, les joueurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibilisés qu'autrefois au risque des coups à la tête. Ils les voient, les histoires d'horreur, dit-il. Même s'ils ne regardent pas souvent l'application, Vincent Desjardins, un attaquant de 18 ans, juge pertinente l'utilisation des capteurs. Parfois, tu reçois un coup et tu ne sais pas trop. Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que ça va passer? Ou c'est plus grave que ça? L'année passée, j'avais reçu un coup. J'ai demandé à Franck qu'il regarde pour voir. On peut vraiment voir si j'ai mangé un gros coup avec une grosse rotation ou si c'est juste un petit coup et que le mal de tête va passer. C'est sécurisant parce que tu peux mieux comprendre ce qui s'est passé, ajoute-t-il. L'argent, le nerf de la guerre. En tant qu'organisation, l'Armada est fière, dit Pierre Leduc, de participer au projet de Bear Mind, qui aimerait éventuellement voir ses capteurs utilisés à travers tout le circuit Tchétchénie. Là où ça se complique, selon Pierre Leduc, c'est sur le plan financier. Il est là, le nerf de la guerre. Pour l'instant, Bear Mind a fait un prix à l'équipe qui s'est engagée pour 2 ans. Sans entrer dans les détails des coûts exacts, Leduc croit qu'à travers la Ligue, c'est l'argent qui va être un facteur. C'est une valeur ajoutée. Pour des gens pour qui le médical est important dans leur organisation, ils vont dire oui. Mais ça ne veut pas dire non plus que ceux qui vont dire non n'ont pas le bien-être des joueurs à cœur. Au niveau médical, à travers la Ligue, d'après moi, personne n'est contre ça. En tant que Ligue, tu ne peux pas dire « ça fonctionne et c'est correct comme ça ». Il faut tout le temps que tu regardes les opportunités. Ça, c'en est une. Là, on travaille avec BearMind. Ils sont en train de se développer pour mettre ça à la fine pointe, pour répondre aux besoins. Je pense que l'expérience de Francis ou celle d'autres thérapeutes à Sherbrooke les aide grandement. C'était « Des capteurs pour prévenir les commotions cérébrales », un dossier de Catherine Harvey-Pinard paru le 26 décembre 2024 dans La Presse.
Prendre la politique au sérieux. Un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 29 février 2024 dans La Presse. Pour commencer cette chronique sur les démissions dans le monde municipal, je tiens à souligner que le phénomène est exactement le même en France. Depuis 2020, 13 000 élus municipaux français ont claqué la porte pour des raisons qui ressemblent à ce qui se vit chez nous. L'enjeu avec lequel nous sommes aux prises a des sources profondes. C'est du sérieux. Je vois 5 explications à cette tendance lourde. 4 ont souvent été abordées dans les médias, ce sont les explications les plus importantes, mais il y en a une 5e qu'il faut aussi mettre sur la table. Présentons brièvement les 4 premières avant d'insister sur la 5e. 1. Les médias sociaux et leur violence. Ce phénomène ne disparaîtra pas, il faut dompter la bête. Par exemple, rapporter les excès à la police et équiper les politiciens ainsi que les administrations publiques pour qu'ils puissent mieux vivre avec cette réalité tout en la combattant. Il y a urgence d'agir. Les médias sociaux causent beaucoup de souffrance. Je crois aussi, comme Catherine Fournier, qu'une certaine introspection s'impose au sein des médias traditionnels. Difficile de calmer le jeu quand la politique est couverte comme un match de hockey, sur le ton du spectacle. 2. Les villes sont devenues de vrais gouvernements de proximité, leurs tâches sont de plus en plus complexes, les occasions d'affrontements politiques de plus en plus nombreuses. Oui, les conseils municipaux sont devenus des parlements. La gouvernance municipale, elle, est restée au siècle passé, ce qui rend la vie politique beaucoup plus difficile qu'aux autres ordres de gouvernement. Lire ceci pour plus de détails. Qui est malade, le maire ou la démocratie municipale? 3. Les crises, climatiques et autres, se multiplient et les villes sont constamment au front. Cela laisse des traces chez les élus, ils doivent être mieux soutenus. Voir cette chronique écrite à la suite de la démission de la mairesse de Chapais, la souffrance du chef. 4. Les villes ont vu leurs responsabilités exploser. On leur demande de se mêler de tout, mais leur fiscalité reste la même. Résultat, les ressources à leur disposition ne correspondent plus aux défis qu'elles doivent relever. Pourquoi rester en politique si on n'a pas les moyens de réaliser les projets qui nous ont motivés à y entrer? 5e et dernière explication. On va m'accuser de manquer d'empathie, je crois avoir démontré que j'en ai, mais je l'affirme quand même. Certaines personnes démissionnent parce qu'elles n'ont pas pris la politique municipale au sérieux. D'abord, un rappel, j'ai été maire de Gatineau de 2013 à 2021. Cette expérience a bien sûr alimenté ma réflexion. On ne peut plus s'improviser maire. La ville de Terrebonne a un budget qui dépasse celui du ministère du Tourisme. Le budget et le nombre d'employés de la ville de Gatineau dépassent ceux d'au moins 7 ministères à Québec. Drummondville, comme toutes les municipalités, a un champ d'action plus vaste que celui de n'importe quel ministère. Les élus municipaux s'occupent de développement social, de gestion de crise, de développement économique, de culture, de sport, de loisirs, de logement, d'itinérance et, oui, de nid de poule, de canalisations et de parcs à chiens. Toutes les municipalités, petites ou grandes, ont des budgets qui se comptent en millions. C'est beaucoup plus difficile d'être maire d'une grande ville que d'occuper le poste de bien des ministres. C'est beaucoup plus difficile d'être maire d'une très petite municipalité que d'être député. Corollaire, devenir maire sans avoir d'expérience politique, c'est possible, mais périlleux. Prendre la politique au sérieux, c'est aussi reconnaître quelle est l'institutionnalisation du conflit. On prend un conflit et, au lieu de le régler par la force, on le fait entrer dans un processus politique qui produit une décision. La politique est donc, par définition, un affrontement. Elle est toujours difficile, même quand tout le monde se comporte bien. Finalement, et c'est le plus important, prendre la politique au sérieux, c'est reconnaître qu'elle n'est ni une affaire de personnalité, ni un objectif de vie, ni un rêve personnel, c'est un outil pour aider sa communauté. Quand un élu fait campagne sur sa personnalité, il va de soi que, par la suite, il considère toute forme d'opposition comme une attaque personnelle. Quand un élu fait campagne non pas pour un programme, mais contre quelqu'un, le soir de la victoire est le seul soir intéressant. Après, c'est une épreuve. Toute politique qui se conjugue au « je » est stérile et risque de se retourner contre son auteur. Pour s'épanouir en politique, il faut porter une cause autre que la sienne propre. Quand on a préparé un programme sérieux et mobilisé notre communauté, quand notre vision d'avenir pour notre ville est construite et défendue par des citoyens engagés, nous ne sommes jamais seuls. Dès que les couteaux commencent à voler bas, des gens viennent à notre aide, car ils croient, eux aussi, aux idées que nous portons. Je le répète, les médias sociaux, la multiplication des crises, la gouvernance et la situation financière des villes expliquent, d'abord et avant tout, l'inquiétante croissance des démissions chez les élus. Mais un certain mépris de la politique en général et de la politique municipale en particulier fait aussi partie du problème. Chaque élu qui vit des difficultés n'est pas nécessairement victime d'un système. Il est parfois victime de son propre manque de respect pour les exigences minimales d'un engagement politique sérieux. C'était « Prendre la politique au sérieux », un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 29 février 2024 dans la presse.